Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-champ, lutte collective, film féministe, organisée par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Alors le cycle continue jusqu'au 4 juillet, donc vous pouvez toutes et tous revenir, mais ce soir c'est la dernière séance présentée de cette programmation qui a débuté le 19 avril. Et voilà, c'est une petite émotion que de boucler le cycle avec cette belle séance. Et vous pouvez retrouver quelques-unes des rencontres qui ont lieu pendant le cycle, qui ont été enregistrées. Vous pouvez les réécouter sur le replay de la BPI. Et donc, juste pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus, dire que cette programmation partait d'une exploration d'un fond de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, pour retracer plus de 50 ans de création, souvent collective et toujours féministe. Et à partir de cette exploration, il s'agissait de créer des dialogues avec des films extérieurs à ce catalogue pour tisser des liens entre les générations, les pratiques artistiques et aussi par-delà les frontières. Et au sein de cette programmation, il paraissait assez évident de se tourner vers celle qui explore la création collective et féministe aujourd'hui. Et donc, on a la chance d'être en présence de certaines des membres du collectif de La Poudrière, un groupe de femmes féministes et cinéastes qui s'est formé à l'ETNA, mais je n'en dis pas plus parce qu'elles vous raconteront cette aventure collective qui est rapidement apparue comme une envie de créer des espaces de création, de réflexion, d'apprentissage où s'expérimente une solidarité politique aussi. Et donc, pour vous raconter cette expérience, on a l'immense plaisir ce soir d'accueillir donc neuf personnes. Catherine Barreau, Agnès Perret, Lucille Combreau, Delphine Voiry-Humbert, Marie Beautois, Leïla Collin-Navaille, Anna Salzberg, Evelyne et Frédéric Menon. Et donc, merci vraiment à toutes d'être ici ce soir. Et peut-être qu'on va très rapidement commencer parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et j'aimerais que vous reveniez sur peut-être la création de La Poudrière. Comment ça s'est passé? À quel moment?
Alors, bonsoir. Donc, avant de raconter la création de La Poudrière, je vais dire quelques mots de l'ETNA, qui est un laboratoire de cinéma argentique partagé, un petit laboratoire qui est aujourd'hui à Montreuil, dans lequel les membres ont accès à des outils, des caméras 16 mm, un petit laboratoire, et fabriquent leurs films eux-mêmes, en 16 mm ou en Super 8. C'est une association qui existe depuis 1996, je crois, et qui est entièrement autogérée, sans subvention, qui s'organise comme elle peut au gré du soutien de chacun. Donc à l'intérieur de ce laboratoire, qui n'est pas vraiment un collectif, on a des moments collectifs comme des assemblées visuelles chaque mois où on se montre des films. Et puis on a fait plusieurs tentatives de faire des films ensemble ou de créer des groupes. Et notamment en 2016, c'était une période politique quand même très différente de celle d'aujourd'hui, puisque c'était Hollande au pouvoir qui n'avait pas encore fait la loi travail. Je ne vais pas dire spécialement du bien de Hollande du tout. Mais en tout cas, il y avait une sorte d'effervescence des collectifs. C'est l'année où il y a eu Nuit debout. Il y avait eu la ZAD était de Notre-Dame-des-Landes était un peu dans un moment assez actif et plutôt moins trop embêté à cette période-là, je crois. Enfin, en tout cas, et quelque chose diffusait comme ça. Et on avait un appétit très fort du collectif au sein de l'ETNA également. Et on avait créé un groupe de travail sur nos films qui s'appelle Films en cours, dans lequel on présentait, on pouvait venir une fois par mois, on parlait d'un film mais en profondeur. Pendant une demi-journée, on travaillait sur un film, à quel que soit le moment de fabrication. Et Anna Salzberg, ici présente, travaillait sur son film le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune, et donc nous racontait l'histoire du féminisme tel qu'elle l'avait vécu, ou justement non vécu avec sa mère. C'était un moment aussi où le féminisme, cette troisième vague ou quatrième, je ne sais plus à quelle vague on est, mais en tout cas les mouvements féministes étaient assez forts et se coordonnaient pas mal à cette période-là. Et on s'est dit, et si on faisait une réunion non mixte, un groupe non mixte au sein de l'ETNA, parce qu'on se rendait compte que les hommes s'emparaient plus facilement de la technique que les femmes, qu'il y avait quand même des espèces de petits rapports de pouvoir comme ça, un peu condescendants, pas forcément explicites, mais... Et puis qu'on avait un peu des difficultés en tant que femme à sortir nos films de publiquement, quoi, disons. Je vais passer la parole à mes amis.
Et bah, je vais prendre la suite. Du coup, moi, je connaissais l'ETNA parce que je fréquentais les assemblées visuelles, mais c'était un lieu qui, à la fois, qui m'attirait et je me sentais, pas légitime en fait. Je connaissais rien au cinéma argentique et je savais pas comment rentrer dans ce lieu en fait. J'avais fait un master documentaire de l'USAS en réalisation, donc je faisais un peu des films comme ça. J'avais envie d'aller voir cet endroit à la marge et en même temps j'avais pas forcément les codes. Et en fait, sur la place de la République, lors de Nuit Debout, j'ai croisé Frédéric et Anna et elles m'ont dit qu'elles venaient de créer un collectif en non-mixité, collectif féministe, au sein de l'ETNA. Et elles m'ont dit viens. Et du coup, ça a été pour moi la porte d'entrée en fait à l'ETNA. Et ce qui m'a ce qui m'a à la fois plu et rassurée, c'était qu'il y avait l'envie à la fois de s'emparer de la technique, donc du cinéma argentique, de la fabrication, comme l'a dit Frédéric, par soi-même, quoi, des films, le fait de développer soi-même, de tourner, d'apprendre, quoi, comment on tourne en Super 8 et en 16 mm. Il y avait cette partie-là de transmission technique, dans l'idée de créer ensemble, apprendre en créant, en faisant, et dans une perspective féministe. Donc il y avait l'idée de faire ensemble, de tourner des choses ensemble, de réfléchir aux images qu'on avait envie de fabriquer, et en même temps de se partager des réflexions et de parler aussi de ce qu'on vivait en tant que femmes, cinéastes pour certaines, être aussi moins seule cette vie-là, quoi. Et je sais pas, est-ce que...
Alors, moi, c'est un petit peu différent de Marie, parce que ces collectifs, je les connaissais depuis longtemps, je gravitais autour de ces collectifs depuis une dizaine d'années. J'avais un petit peu tourné en Super 8, mais il y a des outils dont j'imaginais qui ne m'étaient pas du tout accessibles, que je n'avais pas la maîtrise technique qu'elle était réservée à des gens qui avaient des connaissances techniques assez importantes et qui sont souvent dans ces collectifs plutôt des hommes, à qui il est souvent un peu difficile de demander des explications ou quand on est parfois un peu lente à intégrer certains mécanismes, on n'ose pas leur redemander des précisions. Et c'est vrai que quand j'ai rejoint ce collectif en 2018, ça a été assez libérateur à différents endroits. D'une part sur l'aspect technique, parce que je crois que dès les jours qui ont suivi notre semaine de tournage collectif, j'ai osé me saisir d'une caméra 16, ce que j'avais jamais osé faire avant. Et aussi, ça a été libérateur sur un imaginaire. Je pense que la possibilité de partager, d'échanger dans un climat qui était bienveillant, qui était où il n'y avait pas de jugement, ça a permis de faire émerger des choses que j'imaginais pas pouvoir faire émerger.
Peut-être, oui, pour poursuivre sur l'historique du groupe, après ce moment de création, il y a eu 3 années où dans l'idée effectivement de réfléchir à la fois des questions féministes et de les réfléchir par les outils du cinéma, de nos pratiques, on a à la fois donc, on a, en fait, on a cherché dans pas mal de directions différentes et on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, le groupe s'est organisé autour de réunions mensuelles. Donc on se voyait une fois par mois avec des réunions qui duraient assez longtemps où on mélangeait un peu à la fois parfois un peu des groupes de parole par rapport à nos situations personnelles, des questions féministes qui pouvaient nous habiter. Mais aussi des discussions bah, évidemment sur des films et des travaux. Par exemple, on a pas mal fait de fiches de lecture, par exemple on lisait des livres qu'on se partageait ensuite, voilà. Et à un moment on a initié aussi des ateliers d'écriture où on se donnait une consigne chaque mois, et chacune écrivait un texte sur une consigne. Voilà, on a fait aussi des week-ends de projection, on a regardé des films ensemble. Et en fait, tout ça pour dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble dans pas mal de directions différentes autour de... et pas que à se lancer dans des créations cinématographiques. Voilà.
Oui, je voudrais juste dire que... Alors... C'était pas juste une question de, par exemple, pour moi, la technique, c'était pas mon sujet, mais c'était plutôt d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait ensemble réfléchir sur ces images à travers notre propre expérience de femme et ensemble, comment est-ce que dans cet espace qu'on a imaginé libre et neuf, on pouvait chercher une autre manière de faire image ensemble, ou alors les unes en soutenant les autres. Donc il y a vraiment ce travail-là de déconstruction aussi, et à un endroit, on s'est rendu compte, même à beaucoup de moments, qu'on n'avait pas encore les mots pour dire les choses qui nous posaient question, qu'est-ce qui nous posait problème dans les images, qu'est-ce qui nous posait problème dans nos prises de parole. Enfin, voilà, on a passé aussi beaucoup de temps à se mettre en mots, quoi.
Peut-être aussi. Enfin, c'est important de dire que quand le groupe a été créé, c'était quand même avant MeToo. Donc même s'il y avait une effervescence politique, enfin. Il y avait quand même, on a été quand même bouleversés aussi par MeToo et cette, en tout cas personnellement, c'est pas le cas de tout le monde. On était toutes aussi à des endroits politiques différents. Pour certaines avaient déjà milité dans d'autres groupes, des groupes politiques, d'autres pas du tout. Donc on n'était pas forcément toutes au même endroit. Et je pense que, j'anticipe un peu sur ce que vous allez voir après, mais on a été aussi prises dans un élan politique et à un moment donné, on est aussi sorties en fait de l'ETNA, du groupe et de nos tournages pour aller faire des choses ensemble. J'anticipe complètement sur c'est pas du tout ce que je devais dire. Mais bref, tout ça pour dire qu'après, le mouvement politique a pris de l'ampleur autour. En fait, il y a eu beaucoup. Enfin, tu parlais de mise en mots, mais tout, c'est aussi, ça a été aussi ça. Et enfin, voilà, à un moment donné, peut-être. Enfin, il y a eu le Covid aussi qui est arrivé là-dessus. Enfin, qui a percuté nos réunions mensuelles. On a dû arrêter de se retrouver. Le groupe s'est en fait un peu arrêté de se retrouver après le Covid, ça n'a pas repris. Je pense qu'il y a mille explications. Il y a ce qui s'est passé au sein du groupe dont on va parler tout à l'heure, mais il y a aussi, je pense, ce mouvement politique qui a débordé et qui était aussi plus, en tout cas de mon point de vue, le monde était plus hospitalier. On parlait beaucoup plus de féminisme aussi à partir des années 2017, 18, 19 qu'avant, quoi.
Du coup, alors, La Poudrière, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Pour préparer cette rencontre, on s'est réunis et puis on n'était pas toutes d'accord. Mais moi, ce dont je me souviens, c'était de se dire qu'on était un groupe un peu en dormance, prêt à être réactivé à n'importe quel moment. Bon, je ne sais pas si toutes seront d'accord, mais en tout cas, bon, voilà, il y avait ce truc-là de se dire qu'en fait, on avait quand même traversé quelque chose de très fort, qu'on avait appris beaucoup de choses ensemble et qu'on avait du coup forgé des amitiés ensemble. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenu en fait aussi un groupe d'entraide. Par exemple, on se prête du matériel pour faire des films.
quand les unes et les autres ont besoin sur leur film, elles demandent de l'aide et on vient aider, voilà, prêter la main, faire la technique, voilà. Que quoi d'autre aussi, en fait, on se refile du boulot, voilà, ça nous arrive. On se soutient, on essaye de faire des tournées aussi quand on en fait des films, on essaie de les montrer ensemble pour se soutenir, parce qu'en fait, montrer ses films, c'est pas toujours facile. Et donc, bah, comme vous savez, souvent il y a quand même beaucoup de films, plus de films d'hommes qui sont montrés. Donc, faire des programmations féministes, montrer nos films ensemble, c'est important. Quoi d'autre Est-ce que j'oublie des trucs qu'on fait ensemble?
Il y a aussi le fait que on est plusieurs de la Poudrière à être en 2020 à être entrés au bureau de l'ETNA. On est trois à avoir été au bureau et enfin voilà, ce qui était, je sais pas si vous voulez en dire un mot, mais pour moi, enfin, j'aurais jamais osé prendre la parole dans une assemblée mensuelle de l'ETNA devant 40 personnes si j'avais pas eu cette expérience de partage, de discussion, d'oser prendre position au sein de la Poudrière, quoi.
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, l'ETNA a été transformée aussi, hein, pas nous seulement, parce que suite à la constitution du groupe, il y a effectivement eu deux présidences, coprésidences, qui ont été de la Poudrière, et ça a profondément changé l'association et le travail au sein de l'association.
Non, je voulais juste rajouter par rapport au bureau qui a eu aussi la création d'une maison d'édition pour plusieurs d'entre nous, le Dé Rouge, et que ça s'est vraiment construit aussi grâce à la Poudrière au sein de l'ETNA, en tout cas pour une grande partie de l'équipe, quoi. Et que ça a été une vraiment belle expérience avec Agnès notamment et Catherine.
Comment ?
Oui, et bien sûr. On a en fait installé une table à l'extérieur de la salle et il vous sera possible de les consulter à l'issue des projections.
Ah oui. Non, c'est le même.
Oui, pour avancer peut-être, du coup, pour présenter un peu notre manière de travailler. Et on s'est quand même... on a pris un peu... on s'est confronté, voilà, à la question donc de la création collective sous plusieurs formes, parce que donc du coup, on a décidé donc, voilà, en autrement que par les simples réunions mensuelles, de fabriquer donc des objets ensemble, parce qu'il y a eu aussi des travaux individuels. Chacune, on a continué à créer ou débuté à créer, voilà, parallèlement au groupe, mais là, on avait envie de fabriquer vraiment des objets ensemble. Et on a pris le parti donc de s'extraire de nos lieux habituels, etc., et de partir en résidence ensemble. Ça a été ça la première expérience de tournage, d'aller à la campagne pour tourner. Et c'est aussi important, j'ai l'impression, parce que c'était lié à des moments de vie ensemble aussi, qui n'étaient pas que des moments de travail où on était chacune prise dans nos vies, mais à des moments, voilà, où on était un peu extraite du cours de la vie ordinaire pour vivre un moment ensemble, quoi. Et où, du coup, ça a été des moments assez forts, quoi, joyeux, enfin, avec beaucoup d'émotions, des fois pas, voilà. Mais que ça a à chaque fois été des moments très forts. Et la première création, donc, qui était une installation, donc moi, j'étais pas au tournage, donc je suis pas la meilleure pour en parler, mais...
Donc le fruit de ce dont parle Agnès a donné lieu à une installation, mais c'est vrai que l'impulsion de départ, c'était déjà de partir en tournage et d'amener des désirs de fabriquer ensemble des images sans que ça ait été trop préparé, même pratiquement pas préparé. On a donc un laboratoire de cinéma dit expérimental, ce qui veut dire beaucoup de choses et rien dire. Mais on est, en tout cas, on fait des films sans les écrire à l'avance, en travaillant dans le rapport au monde, dans la, le rapport entre de ce que donne la matière argentique et le monde à partir de, du fait d'être présent dans un espace, d'être ensemble. Et on s'est laissé un peu porter comme ça en essayant de trouver d'autres récits, mais qui ne font pas forcément récits, que ceux qu'on nous raconte habituellement, quoi.
Oui, un rapport performatif et d'improvisation, quoi. C'est ça que peut-être que tu...
Et est-ce que vous voulez qu'on lance l'extrait? Ben, vous allez voir du coup un extrait de cette installation.
Juste pour présenter l'extrait que vous allez voir, du coup, c'est le montage d'une... C'est, en fait, on a, suite au tournage, on a monté, on a essayé de faire un film unique, ça n'a pas marché, on reviendra dessus peut-être après. Mais du coup, on a choisi une forme fragmentaire, donc on a la première projection de cette installation, en fait, a été à La Parole Errante. C'était en 2017. C'est ça. Et donc c'était une installation sur 7 écrans dans la grande salle de La Parole Errante à l'étage, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc les personnes qui visitaient l'exposition pouvaient circuler en ayant un casque sur les oreilles. Et donc là vous allez voir une captation un peu de cette installation avec des extraits de cette bande son. Voilà. Ça dure 7 minutes.
On peut avoir un petit temps d'échange après cette projection. Moi, je vais peut-être lancer une question, mais après, je vais vite prendre les questions dans la salle. Mais juste, Leïla, tu formulais le fait que vous aviez mis beaucoup de temps à trouver des mots. Et moi, je me demandais, parce que j'ai l'impression que de trouver des mots, ça aide aussi à changer les images que l'on tourne. Est-ce que vous pouvez parler de... Est-ce que les mots ont vraiment aidé à créer des images, en fait ?
Je pense que à ce moment-là, quand on a tourné ces images, on n'avait pas encore les mots. On a été avec beaucoup de naïveté. On s'est vraiment jeté dans les images, dans la fabrication de ces images. Et on ne s'est pas tout à fait rendu compte de ce qu'on mettait en jeu, quoi. Donc...
En tout cas, des choses, j'imagine, enfin, pour poursuivre ce que tu dis, Leïla, quand on traite de questions féministes, forcément, on traverse des choses traumatiques. Et du coup, je pense que, oui, voilà, ça n'a pas été toujours évident d'en parler et de produire des images où on a fait surgir des choses qui nous ont un peu débordées et dépassées. Et après, de se retrouver face à ces images... c'était pas facile. Du coup, parfois, on produit des choses qui nous dépassent et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, et voilà. Du coup, il y avait aussi cette surprise de se retrouver face à des images parfois qu'on soupçonnait pas.
J'ai l'impression que ta question, elle renvoie plus au film qu'on va voir tout à l'heure, qui est parti. Agnès tout à l'heure parlait d'ateliers d'exercices d'écriture qu'on a fait, et le film que vous allez voir après, du coup, il est vraiment plutôt parti de ces textes-là. Ce qui n'a pas empêché qu'émerge ce que vient de dire Anna, en effet, des figures un peu et des choses soit inconscientes, soit très enfouies. Et qui sortent et qui nous dépassent parfois. Et il y a, enfin, après, je serais curieuse d'entendre aussi des retours de la salle, parce que peut-être qu'il y a aussi un écart entre ce que vous voyez et ce que nous on projette dans les images. Je sais pas.
N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, je peux vous passer le micro.
Ce que je peux dire pour ce que je peux dire pour continuer, pour arriver à dire ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'était les images qu'on a faites finalement, et tu disais qu'on n'avait pas réussi à faire un film avec, c'est-à-dire que la forme installation, c'était finalement celle qui était le plus fidèle à ce qu'on avait vécu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait tellement été loin pour certaines dans les images que c'était pas possible de les mettre ensemble et de créer quelque chose qui serait en lien de les mettre ensemble et de créer un tout, parce que c'était un éclatement d'intime, un éclatement d'images très intimes, et voilà, c'est la forme qui nous a réunis et le son qui a été rajouté qui a aussi permis de rendre compte de cette expérience. Donc c'est plus une installation qui rend compte de notre expérience que un...
Et c'est...
Bonsoir à toutes, ravie de découvrir ce soir votre travail, plus précisément, et puis avec une mise en perspective historique. Moi, ma question, c'était peut-être, justement, avant ce travail de 2017, est-ce que vous aviez des références aussi, alors c'est un gros mot, référence, mais en tout cas, des images que vous auriez pu, en amont, avoir découvertes, notamment des années 70-80, parce que des images, pas forcément expérimentales, mais on pense beaucoup à des images expérimentales, de collectifs ou pas collectifs, de femmes, féministes, lesbiennes, enfin, on en a effectivement pas, on pensera, j'entendais tout à l'heure les copines qui parlaient évidemment de Barbara Hammer, mais on peut en citer bien d'autres, et des collectifs dont le travail n'a pas forcément beaucoup circulé, mais très important dans les années 70, et qui se trouve d'ailleurs au Centre Simone de Beauvoir, un collectif comme celui de Videa, Malédictine, 1974, on est aussi comme ça, donc, cinq femmes se retrouvent à la campagne, dans la maison de l'une d'elles, et elles se filment, et c'est pas prévu avant, il y a leur imaginaire qui se mêle à toutes. Donc voilà, est-ce qu'il y avait un petit peu comme ça chez vous? En gros, est-ce que vous aviez eu vos petites projections aussi en ciné-club féministe en amont? Est-ce qu'il y a des choses qui ont infusé d'une certaine manière? En tout cas, pour nous, spectatrices, je pense aujourd'hui, forcément, il y a des images qui travaillent et qui se télescopent.
Je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes réponses. Catherine, tu veux dire quelques mots?
Oui. Moi, j'avais une culture expérimentale, donc j'ai vu pas mal de films de femmes, féministes, lesbiennes, etc. Donc pour moi, ça répondait effectivement à un terrain que j'avais même pratiqué dans les années 80. Et après, la génération ici, c'est pas tout à fait la même. Donc, je pense que pas mal d'entre vous connaissaient quand même ce cinéma, mais de façon assez variée, plutôt documentaire pour certaines aussi l'expérimental. Elles connaissaient des noms, elles avaient vu des films quand même, mais peut-être pas pratiqué. Voilà, je sais pas. Vous me direz, peut-être que vous ne direz pas la même chose. Moi, je cherchais un groupe comme ça, puisque j'avais déjà, dans les années 80, côtoyé Toumadaki et Clonaris, donc fait des ateliers, etc. Et donc, j'avais été très, très imprégnée, très marquée par ce travail et cette manière de faire. On a parlé de technique. Leïla, tout à l'heure, avant qu'on commence à parler, disait « Oh, ben moi, la technique, j'ai abandonné tout de suite. Bon, » enfin, je ne sais pas si c'est ça exactement. Tu as dit « Moi, c'est ça. J'ai pas cherché la technique. Non, j'ai lâché ça, puisque j'ai fait tout de suite du Super 8. C'est ce que j'ai trouvé de plus léger, de plus immédiat, de plus direct, de plus beau pour moi. Hein. Mais bon, moi, c'est une certaine génération, en tout cas. Voilà, je vous laisse la parole. Parce que
oui, je pense qu'on avait toutes vu quand même des films, pas forcément ensemble. En tout cas, on n'avait pas préparé cette résidence en regardant des films des années 70. Et je vois les films dont vous pouvez parler, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est... bon, c'est de la pellicule, l'image s'en rapproche. On a filmé nos corps beaucoup. Et on s'est quand même beaucoup interrogé après, hein, pourquoi on revient à ça, et on ne nous l'a pas forcément reproché, mais ce n'est pas l'enjeu, mais on nous a questionné sur ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de refaire un peu ce même chemin? Et j'ai repensé il n'y a pas longtemps, c'est quand même le corps, nos corps de femmes, c'est quand même l'enjeu central de ce pourquoi on se bat, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez... intuitif à aller vers ça, à se réapproprier nos corps. Il faut le refaire à chaque fois, en fait, parce que des femmes l'ont fait dans les années 70, moi je ne l'avais pas fait, et chacune de nous non, mais c'est vrai. Chacune de nous à son endroit avait besoin de ça, je pense.
Non, il y avait nos corps et puis il y avait nos mots aussi. C'était intéressant aussi pendant ce tournage d'entendre ce qu'on disait, et ça faisait image aussi, hein, sur ce qu'étaient nos corps. Et il y avait vraiment un désir de travailler cette matière au plus près aussi de quelque chose presque d'instinctif, quoi, qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de traverser ensemble.
On s'est dit après que le fait de travailler, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on s'était filmé nous de très près. Alors moi j'étais, on n'était pas toutes au même endroit. Certaines parlaient de, enfin je me souviens de Perrine Michel qui travaillait sur le fait de saisir le corps et le soin. Comment est-ce et moi j'étais dans l'idée d'un corps paysage, et ce qui a surgi à l'image c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et on s'est dit après peut-être qu'on avait besoin, finalement on avait besoin de se réapproprier notre présentation nous corporelle pour ensuite aller ailleurs, quoi. C'est un petit peu ça qu'on s'est raconté, enfin ce que je me suis raconté moi à ce moment-là et ce que moi j'avais vécu. J'avais besoin de me réapproprier ça. C'est Fred qui m'a filmé, alors que d'habitude c'est moi qui filme, donc cet endroit-là a été je ne l'ai jamais refait ça. Mais voilà, ça a été un moment. C'est des petites choses comme ça qui nous ont vraiment complètement transformés, quoi. Ça. Ouais. Et pour les images qu'on avait en tête, enfin, bon, c'est vrai qu'on était très baignés. Enfin, moi, je suis très baignée du cinéma expérimental. Effectivement, Marie Clonaris, Katharina Tomadaki, Théo Hernandez. Enfin, voilà, c'est plutôt cette généalogie-là que moi je mettrais en jeu. Et puis, voilà, l'Etna, cinéma expérimental quotidien, quoi.
On, sans doute à ce moment-là, on ne l'évoque pas directement, mais c'est vrai que ce cinéma-là, je pense, a été pour nous très fort, quoi. Et être à la fois du côté de la caméra et du côté de celle qui est filmée. Par exemple, moi, c'était la première expérience, quoi, que j'avais, et je n'ai même pas pensé que j'étais filmée. C'était... naturel, parce que on était là ensemble, on avait vraiment ce désir, quoi, de filmer nos corps, de les filmer collectivement, de filmer nos gestes, de filmer nos expressions. C'était une espèce d'élan très beau.
Il y avait aussi, je crois, les images de cinéma militant. En tout cas, moi, je suis la dernière à être entrée dans le collectif. En rencontrant Frédéric et Anna, et notamment alors que Anna était sur son film en cours, et moi c'était la première fois que je voyais des manifestations féministes à l'écran des années 60-70, et ça a été pour moi un bouleversement d'avoir soudain une conscience d'avoir vu pendant des années certaines images de femmes et d'autres pas du tout, quoi, et de pour la première fois entendre des femmes chanter ensemble. Et je crois que c'est aussi une culture qui est des images qui est présente d'une autre manière. Enfin, et d'ailleurs qui va être présente aussi après quand la poudrière choisit d'aller filmer les manifestations, etc.
Moi, je connaissais certains des films, mais je pense que je les regarde plus de la même façon maintenant, parce que quelque chose m'a traversée dans cette expérience en non-mixité, à laquelle, je pense que j'étais un peu extérieure à ces images avant, et que les échanges et les discussions qu'on a eues ensemble, et je crois que les temps de tournage ont toujours été précédés de temps d'échange, et que ces mots, ces paroles qui ont fabriqué quelque chose aussi au tournage, et la fabrique pour moi elle est portée, elle est traversée des échanges qu'on a pu avoir avant, et du coup je pense que ça a aussi changé mon regard sur des films que j'ai pu regarder de la même façon par la suite.
Et avant de passer à la prochaine partie, moi j'ai peut-être juste une dernière question. C'est justement, vous parlez d'expériences finalement que vous avez réussi à avoir avec un grand niveau de confiance entre vous, qui charrie aussi beaucoup de choses de l'ordre de l'intime, et justement cette installation au moment de partager ces images, qu'est-ce que ça a créé pour vous, chez vous, ce moment de partage d'une expérience aussi forte?
En fait, c'est ce qui est... Enfin, c'était ça, on n'a pas vraiment débriefé sur ce que ça nous avait fait à l'époque. Après, c'était... Enfin, moi, je me souviens de retours de gens qui enfin, ouais, qu'on traversait... traverser l'installation, c'était un peu traverser notre processus de création, et ça c'était intéressant. Après, je pense que assez vite, enfin, on était aussi dans une sorte de, je le dis vraiment pas négativement, mais dans une forme de proto-féminisme aussi. Enfin, je pense que, comme dit Delphine, on avait besoin de retraverser des choses qui avaient peut-être déjà été faites aussi, mais de les expérimenter. Et enfin, voilà, on c'était, je pense qu'aujourd'hui on voit pas du tout ces images de la même manière qu'on les voyait en 2017. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup, enfin, par exemple dans notre groupe, enfin, on parlait pas tellement de la question queer, par exemple. C'était on parlait des questions raciales et intersectionnelles, mais de fait on est principalement des femmes blanches et pas toutes. Mais il y avait la question queer n'était pas tellement au centre, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait pas les choses de la même manière. On est à un autre endroit, je pense.
Toute petite chose, pas trop. Sur cette question, quand même, comme il y avait, on se rendait compte, on comparait toujours de nos petits films. J'ai fait un petit film. Et bon, ça l'était un peu interdit quand même au bout d'un moment, mais et là de voir les images qu'on avait faites sur des immenses toiles, parce que c'est, enfin, on le voit un peu dans le montage, c'est un lieu immense. Le son des entretiens, l'extrait était entendu dans des casques, et de circuler dans ces images, dans nos images qu'on avait faites et des images de nous, on prenait un peu l'espace quand même, on prenait un peu la place, et c'était fort agréable.
Et je propose qu'on avance un peu. Vous avez, certaines d'entre vous ont envie de partager avec la salle des textes qui ont pu vous travailler collectivement. Donc je laisse la parole à Evelyne qui voulait partager un texte avec nous.
Pour parler du texte, bien sûr. Alors en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on se réunissait à l'Etna, on partageait des moments d'intimité en lien aussi avec ce qu'on vivait. Mais très vite, en fait, peut-être parce qu'on venait aussi d'horizons différents, et qu'on était à un moment différent aussi par rapport aux questions féministes, on a eu envie de partager des lectures, de faire des comptes rendus de lectures, de textes d'auteurs, d'autrices surtout féministes. Et assez rapidement, en fait, on a eu le désir dans ces lectures d'approcher aussi les lectures des écrivaines afro-américaines. Et il y a eu, en tout cas pour plusieurs d'entre nous, je pense, une rencontre avec les écrits de Bell Hooks et d'Audre Lorde, dont certaines d'ailleurs connaissaient les textes antérieurement. Et ce soir, en fait, j'ai eu envie de vous lire un extrait d'un de ses premiers ouvrages, en fait. C'est le deuxième qu'elle écrit, qui s'appelle De la marge au centre, qu'elle va publier en 1984, et qui ne va être traduit d'ailleurs en français que beaucoup plus tard. Je crois que c'est dans les années 2017, en fait, que ce texte va être traduit aux éditions Cambourakis, qui est une maison d'édition qui édite beaucoup de textes féministes. Et dans cet ouvrage, Bell Hooks, c'est un ouvrage qu'elle découpe entre guillemets entre une douzaine de chapitres. Ce sont des textes très courts, et il y en a un autour de la sororité. Et c'est ce texte-là, en tout cas la fin de ce texte, que j'ai eu envie de vous lire. Donc je le lis. La solidarité, ce n'est pas la même chose que le soutien. Pour vivre la solidarité, nous devons avoir une communauté d'intérêts, de convictions partagées et d'objectifs autour desquels nous rassembler pour construire la sororité. Le soutien peut être quelque chose de ponctuel. On peut le retirer aussi facilement que le donner. La solidarité nécessite un engagement continu et durable. Si nous voulons qu'il s'étende, le mouvement féministe a besoin de diversité, de désaccords et de différences. Comme Wesley Brooks et James Brooks l'ont souligné dans Revolution and Evolution in the 20th Century, les notions de critique et d'autocritique repose sur une même valorisation de la réalité de la contradiction. La critique et l'autocritique sont le moyen par lesquels des personnes liées par des objectifs communs peuvent utiliser consciemment leurs différences et leurs limites, c'est-à-dire le négatif, comme moteur de leur avancée positive. Dans le langage populaire, c'est de ce processus que l'on parle quand on dit « c'est un mal pour un bien » ou encore « transformer le négatif en positif ». Les femmes n'ont pas besoin d'éliminer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin de partager une oppression commune pour toutes lutter contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous rassembler et nous lier. Tant les expériences, les idées et les cultures que nous avons à partager entre nous sont riches et vastes. Nous pouvons être des sœurs liées par des intérêts communs et des convictions partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans notre lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique.
Merci, Evelyne. Alors, avec Leïla, on voulait aussi prolonger cette réflexion sur la sororité en vous lisant un extrait d'un texte de Rebecca Chaillon, c'est marrant, c'est aussi une afro-féministe, enfin afro-descendante féministe, et qui est une dramaturge et comédienne actuelle. Et en fait, elle a écrit un texte, c'est Chloé Delhomme qui a rassemblé plusieurs autrices dans un ouvrage qui s'appelle Sororité, pour que les personnes disent un peu ce qu'elles pensent de la sororité. Et du coup, il y avait des choses que moi je trouvais assez belles dans ce texte, et notamment qui aborde aussi la question des différences, et parfois c'est pas facile de s'y confronter, c'est-à-dire que la sororité elle va pas de soi évidemment, et quand on se retrouve entre femmes on a vite été confronté à ça, et donc voilà, ce texte il est, enfin, donc moi je commence et, ouais. Alors, si la sororité a une parenté avec le mot sœur, elle ne se restreint heureusement pas à mon champ familial. Mes sœurs sanguines ne seront pas les premières avec qui je m'adonnerai à ce projet politique dense et ambitieux. Parce que faire famille a toujours été plus simple pour moi, loin du cocon nucléaire. Dans cet espace sororal que je me crée, où l'évidence se fait meuf, je me rends compte que les personnes non cisgenres, fluides, queer font absolument complètement partie de l'équation. Je n'ai pas d'argument, juste l'évidence de la communauté très diverse qui m'a formée sur ce chemin. Ce projet est complexe et généreux. Le mot fraternité ayant perdu de sa superbe par un système de lois et de comportements absurdes, il ne m'inspire plus la foi. La fraternité s'est perdue en chemin. Ne me reste plus que les petits cailloux sur lesquels nous, les femmes et les étranges, nous nous croûtons allègrement dans la forêt. La fraternité, je la galette ici-bas. La sororité, elle m'apparaît comme un travail de fourmi, un combat minutieux, quotidien et à de nombreuses petites échelles. Qu'on grimpe doucement, sous la pluie, sous le vent, sur des barreaux glissants, sans regarder trop en bas, en visant le haut, toujours plus haut. Je l'expérimente et en construis le laboratoire avec les matériaux qui se trouvent là, bricolés, avec les restes, de temps, de moyens, dans des murs mous et sous des plafonds fragiles. Faire de l'or avec de la couverture de survie, un art familier. De l'argent avec des culs pailletés, la base. Du diamant avec du polissage de verre brisé dans la cuisine. La vie, la vraie, c'est chiant. De la lumière au fond du trou, avec des copines au téléphone jamais éteint dans la nuit qui fait peur quand tu marches seule, la routine de la rustine. Si je pose quelques éléments de ma recette sonore déjà cuisinée en entrée, ça donnerait. Prendre le temps de comprendre ce qu'on a vécu. Lister nos expériences de femme à femme, les douces, les rudes. S'exposer les récits, longuement, dans un cadre sécurisant, à l'abri des oreilles et des bouches rances. Fumer les souvenirs, hacher le blanc triarcat, moudre les autres discriminations, avaler l'indicible, picoler les traumas, digérer les agressions. Fêter le festoyable avec de très beaux sequins et de l'art. Entre parenthèses, les séries sont acceptées. Avoir envie que ma vie se conjugue au féminin prioritaire, têter le savoir ancestral autour de moi et considérer qu'aucune idée ne m'appartient. Mémoriser ensemble l'histoire de nos luttes, lutter ensemble pour que l'histoire retrouve la mémoire. Et il y a juste, quand elle utilise le terme femme, il y a une astérisque qui dit « Je fais de mon mieux pour ne pas être exclusive, mais je me sentais parfois trop lourde. Alors parfois, j'ai mis des astérisques pour dire que je pense à mes amis transgenres, non-binaires, fluides, queer, quand je dis femme ou meuf. »
Donc je poursuis avec Rebecca Chaillon. Pour expliquer la non-mixité de ma folle équipée, j'utilise la métaphore d'un peintre qui choisirait l'aquarelle ou la peinture à l'huile pour sculpter son œuvre. Parfois, entre parenthèses, parfois la radicalité dans la recherche, c'est bien. Les femmes ne sont pas une matière, mais, pour sûr, des milliards d'œuvres gardées dans des caves humides, suintantes de larmes de désir et mouillées de rage. J'avais comme envie qu'on se fasse la courte échelle pour atterrir dans le salon avec lustre, ensemble. Donc, la compagnie créée, nous passons d'une à 100 en 15 années. Il y a des fidèles du premier jour, des infidélités du deuxième jour, des histoires d'amitié longues, des passions intenses, des rencontres spectaculaires, des drames de vagin, des déceptions professionnelles, des échecs politiques. Quand il s'agit de se confronter sur le terrain, parce qu'être sœur ne suffit pas et que j'ai parfois oublié qu'il y a des enjeux différents pour chacune d'entre nous et donc des applications différentes. Entre deux sœurs, une noire, une blanche, entre une martiniquaise d'Hexagone et une martiniquaise du continent, entre une grosse et une qui se sent grosse, entre une ma sexualité partout et une ma sexualité nulle part, entre une survivante et une épargnée, entre une cis et une trans, entre une vingtaine et une cinquantaine d'années, entre une pleine d'empathie et une corps dans le pâté, entre deux têtes, entre deux fois, entre deux cœurs, entre deux polarités. J'arrête de lister les exceptions, elles sont si nombreuses qu'elles méritent qu'on s'y attarde plus longuement, plus longtemps qu'à la normalité omniprésente et inexistante.
Du coup, c'était aussi c'était pour dire que pour continuer sur cette question des différences. Dans notre collectif, voilà, on a traversé des périodes magnifiques et aussi des périodes plus difficiles, comme tous les collectifs. Et notamment, on s'est retrouvé confronté à pas mal de conflits et on s'est trouvé assez démunis, je crois, on peut le dire. Moi, c'est quelque chose que je trouve important à dire ce soir, c'est que souvent, quand on fait des courses pour remplir son frigo parce qu'on sait qu'un jour on va avoir faim, et ben quand on fait un collectif, c'est pareil, on devrait se savoir que des conflits vont arriver et on pourrait essayer de s'outiller. Et il y a plein de gens en fait qui ont réfléchi à ça. Qui propose plein d'outils. Et c'est vrai que ça peut être intéressant avant même de constituer un collectif, de se poser la question de si les conflits arrivaient, qu'est-ce qu'on ferait, et de peut-être mettre en place prévoir un peu des protocoles. Et j'ai apporté il y a une table à la sortie, j'ai apporté pas mal d'ouvrages et notamment aussi une petite feuille de papier où il y a des ressources et des groupes qu'on peut appeler si jamais vous avez des problèmes dans vos collectifs. Il y a des collectifs qui existent pour venir vous porter en aide et venir réfléchir avec vous. Ça peut être du soutien personnel ou du soutien collectif et aussi travailler sur le fonctionnement du groupe, le fonctionnement du collectif, parce que effectivement se retrouver en collectif, ça fait surgir des différences et des oppressions systémiques. Et du coup, on n'est pas toutes au même endroit au niveau de la classe, de la race, de les orientations sexuelles, de plein de choses comme ça. Et ça vaut la peine quand même de se poser ce genre de questions en amont, je dirais. Parce que quand on les découvre sur le coup, ça peut faire un peu mal parfois. Voilà.
Et il y avait une dernière proposition de texte proposée par Catherine qu'on va pouvoir écouter avant de continuer la conversation.
Pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, je répondais aux questions sur d'autres des films qui auraient été vus des années 70, et puis ça fait écho à ma propre histoire de cinéaste et aussi peut-être ce contre-champ, voilà, ce cycle. Donc je voulais juste évoquer quand j'ai vu pas mal de films. Moi, j'ai beaucoup aimé Mara Matouchka aussi, qui est une cinéaste autrichienne. Là, je la cite parce que je l'ai oubliée tout à l'heure. Et là, je voulais juste revenir sur Thomas Dacquier Clonaris, ça fait partie de mon histoire de cinéaste. Dans le paysage des années 70, ces deux femmes grecques sont arrivées en France, ont élaboré un cinéma qui allie pensée politique et pensée sur et avec l'image. un cheminement intérieur, prenant ses sources dans un désir de non-soumission et d'une construction consciente d'identité, un self-empowerment, l'éveil d'une puissance rayonnante de soi. Elles ont clamé une féminité radicale pour leur cinéma, promu le cinéma fait par des femmes, une manière de faire, un regard qu'elles ont transmis à des femmes et à des hommes. Un cinéma exploratoire, corporel, expérimental, intime et politique. Je vais vous lire un petit extrait de texte qu'elles ont écrit dans ces années-là. Passion de la création radicale. Ce cinéma autre, insoumission, indépendance, rupture, autonomie. Déchirer la dépendance économique du cinéma à grande salle, à grand budget, à grande consommation, à grands moyens, à grande dépendance. Je libère mon introspection. J'expose mes racines et mes douleurs. Enfance, désir, révolte, répression, torture, vieillesse, mort. J'expose mes couleurs archétypiques et sociales. Le rouge, le noir, le blanc, le rose, l'or, l'argent. Je mets en scène mes structures mentales, mes géométries. Mon image corporelle s'inscrit sur la pellicule. Je m'ouvre à vous par mon corps sentant et sensible. Mon corps de femme sujet. Je vous livre les rituels de mon identité. Je vous regarde. Je vous interroge. J'accouche d'un film autre. Et on peut lancer l'enregistrement.
Manifeste pour un cinéma corporel. Car le sens du corps est violent. Car mon corps est danger de vie et de mort. Car mon corps est de femme sujet. Car mes images naissent de tous les corps de mon corps. Car mes images sont identité illimitée. Car mes images sont du sang manifeste. Car faire exister mes images, c'est faire exister ma révolte. Car mon corps n'est toujours pas libre. Car je ne suis pas libre et mon corps est enragé. Car ma révolte ne s'arrête plus. Car ma création est désir de rupture sauvage avec les codes imposés. Car mes éclats visuels sont désir de désordre. Car mes rituels silencieux sont cris intérieurs. Car mon feu de cristal. Car mes images sont brillance du regard amoureux. Car mes images sont peau de regard. Car mon regard est folie de toucher. Car ma beauté est celle du corps exposé dans ses désirs et ses blessures. Car ma violence est celle du corps exposé dans son vécu. Car mon vécu mis à nu est désir d'abolir la scission entre vie et création. Car ma nudité fait ma force et ma parole. Car me dévoiler, c'est être présente. Car ma présence est amour et menace. Car mon corps est obsession de liberté. Car mes images. Car je, mon corps, reste insoumis et sauvage. Car je, mon corps déborde les barrières qui lui ont été assignées. Car je, mon corps, est traversé par l'élan de dire. Car je pousse, je grandis, je me transforme. Car j'explose en images. Car ainsi, mon corps me revient. Clonaris Thomadaki, Athènes, septembre 78.
mise en perspective aussi des années 70 par rapport au cycle contre-champ et à notre travail aussi, Poudrière, je pense, en partie.
Merci beaucoup pour le partage de tous ces textes. Il va y avoir, on proposait aussi de projeter une bobine Super 8 grâce à Catherine qui va pouvoir aller s'installer. Et pendant qu'elle s'installe, je ne sais pas si vous voulez revenir brièvement sur cette bobine qu'on va projeter. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que justement vous avez été amené, après avoir peut-être tourné la caméra vers vous, à tourner la caméra vers l'extérieur et là la bobine qu'on va voir a été tournée en 2019 en manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pendant que Catherine s'installe à la projection?
Mais c'est vrai que la force aussi de ce moment-là du tournage, c'est que ça a déplié des désirs, en fait, et notamment celui d'aller vers l'extérieur, après avoir partagé des choses un peu intimes, d'aller partager des espaces de lutte, des espaces collectifs, et d'y faire circuler cet outil, celui de la caméra. Donc, dans les images qu'on va voir... c'est une caméra qui a circulé plutôt entre nous dans le groupe, mais on est allé aussi sur des lieux de lutte comme à Bure, où là l'idée c'était vraiment de partager la caméra et de la faire circuler dans un collectif qui était plus large, avec des gens qui n'avaient pas forcément une pratique de cet outil. Et ça a été des moments assez forts et assez joyeux aussi, je pense, pour nous toutes.
Et Anna, oui, ce sont des images qu'on retrouve oui, pour certaines dans ton film, Le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune. Est-ce que tu y avais déjà pensé ou elles se sont intégrées après coup?
Je ne me souviens plus exactement dans quel sens ça s'est fait. Parfois, les choses se mélangent un peu. Mais aussi, oui, du coup, les images qu'on a faites à Bure, c'est un autre collectif, Les Bombes Atomiques, qui les monte, enfin, qui va faire un film avec, parce que c'était lors d'un rassemblement féministe et anti-nucléaire en 2019, dans la Meuse, là où il y a un gros projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Et aussi. Ouais. Et aussi, on a fait un segment de tremblement. Certaines d'entre nous de la Poudrière. En fait, au moment de Nuit debout dont parlait Fred au début, on a fait un film. C'était quoi, film sans fin?
Un film sans fin sur des luttes en cours. Un film en cours sur des luttes sans fin, qui n'est pas fini donc.
Et donc, chaque collectif ou personne pouvait faire une bobine de 3 minutes. Et du coup, l'idée, c'était que les personnes s'emparent aussi de l'argentique. Et donc, avec certaines personnes à Poudrière, on avait fait aussi un segment qui s'est inséré dans ce film collectif-là.
Est-ce que tout est bon pour la projection? Oui. Alors on peut éteindre la lumière et regarder la bobine.